C'est nous qui vous remercions beaucoup pour cette intervention très dense et à la fois très précise et claire et détaillée. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai entendue. Et pour toutes ces, justement, ces tensions, ces contradictions, ces paradoxes que vous nous avez pointés et qui, je pense, que vont nous aider à travailler. Et puis, cette articulation à la fois dans une réflexion très théorique et très pratique, très pragmatique aussi, l'expérience de terrain et la réflexion didactique également. Donc, merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on a une demi-heure à peu près pour échanger, pour profiter de la présence de Bernard Carrette, pour lui poser des questions, pour approfondir toute cette réflexion.
Oui, pour la première question, je vais poser une question très pratique. Je reviens sur l'exemple de la cour d'école. Et puis, donc j'ai deux questions qui sont récurrentes, qui interviennent souvent dans les réunions avec des professeurs. Premièrement, comment vous nommez la compétence? Puisque vous savez que nous, les compétences, on les met souvent en rapport avec les programmes officiels. Donc comment vous la nommez, la compétence? Et puis la deuxième réponse que j'attends aussi, c'est comment vous mettez en place de manière pratique les trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, comment ça se passe dans le pratique? C'est-à-dire, par exemple, les élèves qui sont entre guillemets bons vont faire la phase 1. Et est-ce qu'on leur fait faire la phase 2 aussi, la phase 3? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe une journée? Voilà, c'est deux questions très pratiques.
Pour répondre d'abord à votre première question, qui est une question, à mon avis, extrêmement centrale et pertinente, pour moi, mais ça, c'est moi en tant que chercheur, je crois que la manière dont on veut nommer les compétences entraîne chaque fois des difficultés dans leur interprétation. Donc, moi, la manière dont je nomme la compétence, c'est le fait qu'on met les élèves face à une tâche dans lequel il y a une mobilisation d'un ensemble de procédures qu'on a effectivement mis en évidence. Si je voulais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, moi je serais plutôt du fait de défendre un ensemble, de mettre clairement en évidence un ensemble de procédures, mais en disant aux enseignants, vous devez amener les élèves à ce qu'ils soient capables de les utiliser. Ce serait plus simple que tous les référentiels de compétences qu'on peut analyser actuellement et qui sont, pour des enseignants, extrêmement compliqués. Toutefois, il faut faire attention. Hein, trop clairement, chez nous, en communauté française, beaucoup d'enseignants se limitent à l'apprentissage de procédures sans s'interroger sur la mobilisation. Et donc, il faut une sorte de pari. Ça va fonctionner. Et puis, on se rend compte que chez pas mal d'enfants, ça ne fonctionne pas. Entre autres, dans les milieux plus défavorisés. Donc, il y a quand même... Alors, pour la première question, pour la phase 1, la phase 2, la phase 3, pour le modèle, il y a deux situations. Dans nos situations de recherche, on a toujours fait passer les trois phases parce qu'on voulait avoir l'analyse des relations entre les phases, qui nous semblait importante. Maintenant, quand l'enseignant est dans sa classe, moi, je réponds très clairement, il l'utilise comme il pense devoir l'utiliser. Et donc, on a des enseignants qui, très clairement, font comme vous avez dit. S'il a réussi la tâche complexe, je ne vais pas m'amuser à voir s'il est capable de la faire de manière décomposée et d'analyser les procédures. Mais d'autres enseignants estiment qu'il est intéressant de tout faire. Donc là, je n'ai pas à dire aux enseignants de la manière dont ils vont utiliser les épreuves que nous proposons. Sachant que l'idée, c'est quand même cette idée de diagnostic.
Une toute petite question dans le prolongement de celle qui a été posée. Est-ce que dans vos travaux de recherche, vous faites analyser les démarches par les élèves eux-mêmes? C'est-à-dire que, bon, je reviens à cette idée-là de pédagogie différenciée. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes appuyé sur l'analyse que les enfants font eux-mêmes de leur démarche? Vous parlez là d'analyse faite par les enseignants. Mais qu'est-ce que les enfants disent quand ils ont réussi? Et est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer justement sur leurs propres commentaires, les traduisant, transférant, adaptant? Enfin, d'abord, est-ce que vous l'avez fait? Et si vous l'avez fait, qu'est-ce que ça a donné?
Alors, on ne l'a pas fait dans les recherches, on va dire, plus importantes. Moi, je l'ai fait avec les enseignants avec qui je travaille dans ce qu'on appelle des recherches collaboratives, sachant que ça pose un problème. Alors, en effet, on leur propose une tâche complexe. Alors, première possibilité, c'est d'être à côté d'eux et de leur faire parler sur la tâche complexe quand ils sont en train de la résoudre. Mais en faisant ça, on les met certains d'entre eux, surtout ceux qu'on voudrait vouloir analyser, on risque de les mettre en surcharge cognitive. C'est-à-dire, réfléchir à ce que je fais pendant que je suis en train de faire, c'est extrêmement compliqué. Et puis, quand on leur demande après, c'est également compliqué. Pourquoi ? Parce que, entre-temps, ils ont sans doute oublié, ou en tout cas... et donc, on arrive à des résultats qui peuvent être intéressants, qui c'est plutôt une analyse des erreurs, en disant, mais pourquoi tu as écrit ça ou pourquoi tu as écrit là ? Mais ça ne représente pas automatiquement la manière dont il a fonctionné lorsqu'il était face à la tâche. Donc il y a un problème méthodologique pour pouvoir y arriver. Hein, sachant qu'en effet, les questions de métacognition sont toujours intéressantes, mais d'une certaine manière, la métacognition, il faut s'en débarrasser. Si je veux être performant, un expert, il réfléchit plus à ce qu'il fait. Il automatise un ensemble de choses, et donc c'est très intéressant, en effet, de passer par des phases de mise en évidence de comment je fonctionne, mais en même temps, à un moment donné, si je fais ça pour toutes les tâches, je perds de mon efficacité en termes cognitifs.
Merci. Oui, je souhaiterais intervenir d'abord pour saluer l'effort d'analyse, effectivement, dans la gestion de ces deux paradoxes que vous avez, je crois, assez bien formalisés et formulés. Je voudrais déplacer un petit peu, si vous permettez, le champ de la recherche. Vous disiez tout à l'heure, bon, dans une vision peut-être un petit peu radicale, pessimiste, on commande en haut, on obéit en bas. Je crois que si nous pouvons défendre, non pas tellement l'évaluation des compétences, moi je ne sais pas ce que c'est que l'évaluation des compétences, j'essaie de savoir ce que c'est que l'évaluation par compétence ou par référence à des compétences, enfin, c'est pas pareil. Il faut que nous essayions de sortir de la monoculture de l'épreuve, voyez, au sens le plus normatif du terme, c'est-à-dire de l'examen, de la grille, de la validation binaire, etc. Alors, je voudrais faire part quand même des travaux qui, en France, sont présidés à la validation, vous voyez, je ne parle pas évaluation, mais validation du brevet informatique et Internet. Parce que ça pose exactement la problématique que vous développiez, c'est-à-dire qu'on est parti au départ, et je crois qu'il est important d'y rester dans cet idéal-là, d'une auto-évaluation de l'élève qui va solliciter le professeur. C'est interdisciplinaire, donc de mathématiques, de lettres, de langues, etc., sur l'idée qu'il se fait de la compétence accomplie qu'il possède. Donc, souvent, il intervient par Internet, il entre en communication avec l'enseignant et il demande à l'enseignant un regard, vous voyez, sur ce qu'il lui propose. Et je crois que cette évaluation par compétence ne peut se réussir que si l'élève sort de la position de cobaye pour accéder à une position d'acteur et d'acteur dialogique. Voyez, ça me paraît un déplacement fondamental, parce que sinon nous serons dans un cercle vicieux, celui que vous avez analysé avec grande pertinence, à mon avis.
Je n'ai pas grand-chose à dire, parce que je suis d'accord avec vous. Donc, je pense qu'en effet, si l'évaluation telle qu'on la présente ici, et c'est ça l'idée de compétence, elle a du sens, enfin, si je resitue ça dans les types d'évaluation, elle a du sens dans l'évaluation formative. On est dans une situation où on est au service de l'apprentissage, en sachant très bien que, mettant les élèves face à ces difficultés, face à des tâches complexes, on les met face à des difficultés, donc on met en évidence que l'erreur est importante, et donc on change totalement de considération. Mais vous imaginez bien que ce changement ne va pas avec ce qu'on propose sur le côté, qui sont ces approches extrêmement standardisées, dans lesquelles ce qu'on cherche, c'est la faute. Donc là, il y a véritablement une tension que vous avez bien raison de mettre en évidence, et qui est un enjeu réel en termes de système éducatif. Pourquoi ? Parce que chez nous, on est dans un système extrêmement de sélection, où tout... évaluation quasiment pour l'élève est certificative. C'est-à-dire que chaque fois qu'il fait quelque chose, ça va dans le bulletin, c'est publié. Et donc tout ce caractère privé où je peux me tromper, où je peux me dire ça ne va pas, où je peux être en dialogue avec l'enseignant ou avec les autres élèves, mais n'existe pas beaucoup. Et donc ça entraîne quelque chose de catastrophique chez nous. C'est que, pour moi, je dis toujours, nos élèves en communauté française, ils vont à l'école pour réussir, ils ne vont pas à l'école pour apprendre. Et ça, c'est une catastrophe. Et on le voit très bien, hein, dans la manière dont les élèves réagissent, hein, surtout au primaire, ils font encore plus ou moins semblant, mais au secondaire, on s'organise pour pouvoir réussir telle épreuve de telle manière, etc. Donc on fait semblant d'apprendre, on n'apprend plus. Et là, moi, je crois que c'est pédagogiquement, pour moi, un réel défi.
Bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette conclusion, car le problème de la notion de la pédagogie de l'incertitude, je pense que c'est vraiment quelque chose de très nouveau et de fabuleux, et que effectivement, par rapport aux professeurs, souvent c'est un petit peu aussi un cercle vicieux, hein, d'une attente du professeur. On va dire le professeur, non pas celui qui est tout le temps en train de chercher, et heureusement qu'il y en a beaucoup, mais le professeur qui est consciencieux, comme on dit qu'il fait bien son travail et qui attend aussi, si je puis dire, des conseils. Pour être un petit peu plus concret par rapport au premier degré, donc je vois que vous connaissez vraiment ce que nous on appelle en France le premier degré, il y a effectivement le texte du livret, entre guillemets, de compétences qui est paru. Je sais, dans le premier degré, les inspecteurs, les formateurs sont parfois un peu critiques sur ce texte qu'ils auront à mettre donc en application assez rapidement, hein. On aura des outils informatiques, mettre des petites cases. Et il est vrai que dans la pédagogie quand même de l'incertitude, dans la validation, comme vous l'avez dit très justement, il y a 56 cases ou je ne sais pas combien, et à un moment donné, il faut mettre le moment terrible où on met la croix, oui ou non. Donc je vous demande, sur ce texte peut-être, de livret qui est sorti pour le premier degré, qui a une autre forme un peu, parce que ça a été expérimenté, un petit peu votre avis d'expert et de chercheur.
Mais enfin, si on parle bien de la même chose, c'est donc il y a une différence entre. Enfin, on est dans une situation. Vous êtes dans une situation, je peux me permettre parce que je suis de l'étranger, un peu schizophrénique, dans le sens que d'un côté, vous avez ce document qui est ce document des socles communs de connaissances et de compétences, et que vous avez sur l'autre côté un programme qui est pour moi un programme de procédure qui ne correspond pas à l'objectif que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est pour ça que je pense que c'est schizophrénique, et c'est que ce qu'on est en train d'envoyer, et c'est pour ça que je vous disais bienvenue au club, c'est que vous êtes également dans une situation où on va envoyer des messages extrêmement contradictoires aux enseignants, avec le danger que très souvent quand on envoie des messages contradictoires, ce sont les messages les plus carrés qui passent. Et donc voilà, je tout à fait. Je pense qu'en effet, l'histoire des petites croix rappelle très clairement une certaine vision de l'évaluation dans laquelle, malheureusement, les concepteurs ont leur certitude. Mais moi, je peux très bien montrer qu'une petite croix à un moment pour un élève ne sera plus la même petite croix quelques jours plus tard. Et on le sait tous très bien. Donc arrêtons de raconter des choses aux enseignants qui sont en dehors de la réalité. Parce que le métier d'enseignant s'est fait véritablement d'incertitude et de mystère. Et il faut apprendre à gérer ça, plutôt que de vouloir dire « moi je sais ». Je crois que c'est d'ailleurs le plus gros, enfin je sais pas comment chez vous ça fonctionne, mais chez nous c'est le plus grand reproche qu'on peut faire aux pédagogues, c'est qu'ils ont eu trop souvent tendance à dire « écoutez, moi je vais vous expliquer ». Moi je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi des élèves mobilisent. Je suis capable de dire, dans telle situation, avec tel enseignant, il a fait ça, ça a marché, c'est intéressant, ce serait intéressant d'en discuter entre nous, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait essayer, etc. Je pense que c'est une autre démarche, mais qui correspond plus, pour moi, à ce que j'ai vécu quand j'étais moi-même enseignant, et en plus, quand moi-même j'étais enseignant, je ne supportais pas quand quelqu'un venait me dire comment je devais faire. Enfin, ça, c'est peut-être mon caractère rebelle, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont également dans cette situation.
Oui, vous avez à plusieurs reprises insisté sur la nécessité d'articuler ce que vous appelez le micro et le macro. Alors, comme c'est moi qui ai le micro, je vais poser une question sur le macro. Est-ce que, en tant qu'universitaire, chercheur, vous avez eu, dans la communauté française, un rôle à jouer au niveau du macro, précisément, c'est-à-dire au niveau de l'institution, en tant que conseil, ou est-ce que vous intervenez à ce niveau-là?
Oui, nous intervenons, entre autres, Bernard Rey et moi-même, faisons partie de ce que s'appelle la commission de pilotage, qui est donc la commission qui dirige, qui essaie de piloter le système éducatif. Donc on a une voix au niveau du macro, mais ce sont des machines insupportables à essayer de faire fonctionner, parce que bon, faut mettre tout le monde d'accord sur un ensemble de principes, un ensemble d'orientations, c'est extrêmement compliqué. Et pour l'instant, tout le monde croit, entre guillemets, hein, je caricature naturellement, aux injonctions des épreuves PISA construites par l'OCDE, et donc tout le monde est en tout le monde. Beaucoup de personnes définissent l'efficacité de manière indirecte de cette manière-là, et donc c'est très difficile d'aller à contre-courant. Je pense que ceux qui nous écoutent le plus, ce sont les enseignants qui justement se retrouvent dans ce type de discours et ont envie de dire « je continue à me poser des questions, je continue à m'interroger et j'essaie de mettre des choses en place ». Mais bon, la machine macro pose des problèmes. Mais je crois qu'il y a des exemples quand même en Europe qui montrent que le micro, que donner plus au micro est tout à fait possible. Je pense que la réussite des systèmes des pays du Nord, entre autres du Danemark et de la Suède, c'est une forme de responsabilisation des écoles avec des projets qui peuvent être subventionnés parce que ils ont proposé telle ou telle chose et les responsables macro disent tiens, c'est intéressant, on va vous aider à le mettre en place. Et je crois que c'est une autre démarche. Naturellement, on sait très bien que c'est une autre culture, que c'est une autre manière de fonctionner, mais c'est une autre démarche. Alors chez nous, c'est quasiment impossible, vu qu'on est dans une concurrence telle que ce serait très compliqué de mettre ça en place. Enfin, bon, voilà. La relation micro-macro est hyper compliquée. Ça me semble évident. Mais chez vous aussi, à première vue, hein, le nombre de grèves que j'ai pu voir sur mon poste de télévision...
Peut-être en attendant une autre question, moi j'aurais voulu vous demander justement cette question de l'incertitude et de l'opacité finalement, tout ça, ça pose quand même aussi question par rapport à la communication avec les parents d'élèves et avec les familles. Et est-ce que vous avez réfléchi à ça et qu'est-ce que vous avez travaillé? Et en particulier justement aussi les élèves, les parents de milieux défavorisés.
Oui, j'ai pas travaillé directement sur ces questions là. On a des chercheurs qui travaillent entre autres sur l'apprentissage dans les familles défavorisées. Je pense que là, il y a des choses vraiment intéressantes à mettre en évidence. Oui, maintenant, qu'est-ce qu'on dit aux familles aussi? Actuellement, sur base des petites croix, on prend un ensemble de décisions, alors que moi, je suis pour la discussion et pour le débat par rapport aux apprentissages des élèves. Je pense que c'est contextualisé, les choses ne sont pas noires, ne sont pas blancs. Maintenant, il faut, pour chez nous en tout cas, que les enseignants soient formés à ce genre de choses. Et c'est vrai que le dialogue avec les familles plus défavorisées pose des problèmes, pose des questions. Et j'ai pas de réponse. En tout cas, j'ai pas travaillé sur ces questions-là de manière directe.
Vous venez dire à l'instant, vous posez des questions et c'est quelque chose qui m'interpelle. Quand on regarde des enfants tout petits, ils se posent beaucoup de questions, ils posent beaucoup de questions. Puis on remarque à un moment qu'ils cessent de poser. Alors est-ce qu'ils continuent à se poser des questions? Et voilà, et ma question c'est justement comment les amener à garder cette capacité. Et est-ce que un élève qui ne réussit pas, enfin qui n'arrive pas, qui en échec pas face à un problème, est-ce que c'est pas parce qu'aussi il n'arrive pas à se poser des questions et trouver donc les bonnes questions? Est-ce qu'on ne demande pas systématiquement aux élèves de trouver des réponses et finalement le problème des questions n'est pas abordé?
Je n'aurai pas de réponse parce que j'ai pas envie d'être prescriptif. Donc voilà, je pense qu'il y a des enseignants en effet avec qui je travaille qui montrent très bien que des enfants qui arrivent complètement cassés par une manière de fonctionner en CM1, lui il les a en CM2, ils montrent très clairement qu'en quelques mois ils peuvent reprendre confiance par rapport au rapport qu'ils ont par rapport à l'école. Je pense qu'il y a une question de rapport qui se construit. Je pense que si on défend, si l'approche par compétence est proche d'une certaine vision socio-constructiviste et donc est passée qu'elle a été bien acceptée par un ensemble de pédagogues, mais c'est quand même également avec cette idée que justement, il faut mettre un climat susceptible de permettre aux enfants de continuer à apprendre. Alors comment? Moi, je dis, oui, il y a des pistes, mais ces pistes sont dans des contextes. Et donc, moi, je renvoie aux enseignants en disant, mais comment est-ce que vous faites? Et donc, des réponses toutes faites, j'en ai pas. d'une certaine manière, j'en veux pas non plus.
Je voudrais vous poser une question sur la formation des enseignants. Pour que les enseignants réussissent à proposer les trois types d'épreuves en phase 1, phase 2 et phase 3, il me semble que ce n'est pas évident de réussir à faire ça en tant qu'enseignant, qu'on n'a pas forcément dans nos propres pratiques cette capacité à faire de l'analyse de la tâche. Et quelle formation est-ce que vous préconiseriez pour que les enseignants sachent proposer à leurs élèves ces trois phases et ces trois types d'évaluation?
Oui, vous mettez le doigt naturellement sur une des limites de ce type d'approche, actuelle en tout cas, c'est que les épreuves ne sont pas faciles à construire. Sont pas faciles à construire parce qu'il faut trouver la situation, déjà toujours trouver une tâche complexe et pouvoir l'analyser en tant que telle, ça suscite un questionnement. D'un autre côté, je pense que c'est central dans la formation professionnelle de l'enseignant. Si l'enseignant n'est pas capable de pouvoir justement se poser le type de questions que posent ces trois modèles, je pense que ça susciterait des questions par rapport à la formation. Alors moi, je peux dire très clairement, j'ai fait construire des épreuves par des enseignants. Ils y arrivent. Le problème, c'est que ça prend beaucoup trop de temps. Et donc, on est avec l'idée qu'il est nécessaire de leur proposer des modèles qu'ils peuvent adapter, qu'ils peuvent utiliser. Mais en même temps, est-ce qu'ils sont capables de le faire, ceux avec qui j'ai travaillé? Oui. Est-ce que c'est possible dans son travail de tous les jours? Je serais plus nuancé. Mais je pense qu'il y a un autre intérêt. J'ai un autre enseignant avec qui je travaillais qui disait également, depuis qu'on travaille ensemble, moi je travaille autrement avec mes élèves. Je leur demande, quand je fais quelque chose, dans quelle phase on est. Est-ce qu'on est en phase 1? Est-ce qu'on est en phase 2? Est-ce qu'on est en phase 3? Et il disait, mais très clairement, en travaillant de cette manière-là, eh bien, les élèves, c'était des élèves de fin de primaire, première année du collège pour vous, étaient dans une situation où ils disaient très clairement, ben voilà, maintenant on est en phase 3, on s'exerce, c'est important de s'exercer parce qu'on va pouvoir utiliser ça par la suite. Là, on est face à une tâche complexe, donc on sait qu'on est en phase 1, et donc c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Donc il y a quand même possibilité de former les enseignants de cette manière-là. Et pour la construction des épreuves, ils peuvent y arriver, mais je pense qu'il faudrait avoir des exemples d'épreuves comme nous, on a en communauté française, sur lesquels ils peuvent se reposer, parce que sinon la tâche serait beaucoup trop importante. Mais je pense que d'un autre côté, ce qu'ils font, eux, dans les classes, parce que je me suis un peu intéressé à ces questions, c'est de la phase 3, et encore de la phase 3 de bas niveau, en général. On a rarement des bonnes épreuves d'évaluation dans les classes. Sachant qu'on prend un ensemble de décisions sur base de ça, je crois qu'il y a tout un travail de réflexion, de construction de qu'est-ce qu'on attend des élèves qui est à mettre en place dans la formation des enseignants.
Je rebondis là sur la dernière question, parce que c'est quand même un souci. Pour moi, c'est mon souci. Hein, c'est comment fabriquer des évaluations. J'ai dans mes documents là un exercice de mathématiques de seconde qui a été évalué et fabriqué par vous ou par d'autres personnes. Bon, c'est 15 pages quoi pour un exercice de seconde. 15 pages, une analyse remarquable. Hein. Mais demander ça à des enseignants, moi, franchement, ça me paraît très difficile. Alors, d'un autre côté, vous dites, et je pense que c'est ce qu'attendent les professeurs, c'est qu'on leur fournisse des outils préfabriqués. Mais c'est aussi, à mon avis, aller contre l'idée de tâches complexes et inédites. C'est aussi rentrer dans la norme.
Oui, c'est un effet peut-être. Enfin, moi, je pense pas que c'est rentré dans la norme. C'est-à-dire, si on veut permettre aux enseignants d'essayer de mieux comprendre le savoir mobilisé, sachant qu'il est contextualisé dans leur classe, il faut qu'on leur propose des outils. Donc, moi, je présente ça comme des outils. Cet outillage, on leur demande pas de tout construire. On leur dit, ben voilà, tel type d'épreuve. Vous les utilisez si ça vous semble pertinent ou pas pertinent. Vous pouvez les modifier si vous trouvez ça pertinent ou pas pertinent. Moi j'ai pas de je comprends en même temps votre position en disant c'est compliqué, mais en même temps quel est l'enjeu? Voilà, c'est moi je dis toujours, hein, les gens continuent à travailler, à construire, enfin les spécialistes continuent à construire des épreuves par objectif. parce qu'ils sont assujettis à un modèle statistique, et donc c'est plus facile de continuer comme ça. Mais derrière tout ça, il y a un message qu'on envoie, entre autres, aux enseignants, qui est très différent du message qu'on voulait faire passer au départ, qui était le message « rentrons dans une approche par compétences ». Ce qui est essentiel dans notre société actuelle, c'est que les enfants, les élèves soient formés à pouvoir s'adapter à des situations complexes, qui est la réalité du marché du travail actuel. Et c'est pour ça que la notion de compétence dans le milieu de l'entreprise a eu un tel succès également, même si ça pose plein de problèmes.
Merci. Alors, moi, je suis inspectrice en langue. Et en langue, on demande maintenant aux enseignants de débuter leur projet pédagogique par la tâche finale, c'est-à-dire d'avoir en tête, au moment où ils conçoivent leur projet, la tâche finale. Mais ce qu'on leur dit également, c'est que l'élève doit avoir connaissance de cette tâche finale. Alors, est-ce qu'on n'est pas là dans l'erreur, puisque vous, l'adjectif qui revient depuis tout à l'heure, c'est l'adjectif inédit. Alors, avoir connaissance, c'est-à-dire savoir au début du mois, qu'à la fin du mois, ils vont devoir rédiger un article ou interviewer quelqu'un. Alors, est-ce qu'il faut annoncer aux élèves ou pas l'objectif, finalement, de leur apprentissage de ces 3 semaines, 1 mois ? C'est-à-dire, tâche complexe, oui. Est-ce que derrière inédit, il y a aussi vous n'en avez pas la connaissance ? Ou est-ce que c'est simplement vous ne l'avez jamais fait ?
Pour moi, enfin, si j'ai bien compris le cas, qu'on leur dise à la fin du mois, vous serez capable de devoir faire une interview, ça ne pose pas de problème. Ce qui poserait problème, peut-être, c'est de dire, ce qui poserait problème, ce serait de dire, voilà l'interview avec telle personne, dans tel truc, dans telle circonstance. Non, dire, vous êtes capable de faire un entretien à la fin du mois, ça ne pose aucun problème. Il sera quand même devant une tâche inédite.
J'ai un tout petit souci par rapport à ce que vous avez dit sur le rapport à l'erreur et l'erreur paralysante. Et quand vous proposez vos situations, vous commencez par celle qui est plus complexe. Donc il y a des élèves qui sont automatiquement à ce moment-là en état d'échec. Comment vous gérez la hiérarchisation entre les 3 situations et comment vous pouvez à ce moment-là dédramatiser le rapport à l'erreur ?
Non, mais c'est bien un petit peu d'exercice.
Oui, c'est une question qui revient régulièrement, peut-être pas énoncée dans les mêmes propos que vous, mais l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on commence par une phase 1 et on termine par une phase 3, alors qu'on pourrait très bien, comme certains préconisent, commencer par une phase 3 et terminer par une phase 1, ce qui modifierait la relation à l'erreur. Ben justement, parce que l'idée d'abord, c'est qu'on évalue des compétences au sens du terme, au sens décrétal, qui est de dire il faut les mettre face à une tâche complexe, donc c'est ça qu'on fait, et puis on diagnostique à partir de phase 2, phase 3. Et puis de nouveau, dans la dédramatisation de l'erreur, c'est la manière dont l'enseignement, dont l'apprentissage est réalisé. Si l'apprentissage est réalisé dans l'acceptation de l'erreur et dans le fait que, comme dirait De Vecchi, vos erreurs nous intéressent, les élèves apprennent très, très, très rapidement à dédramatiser le fait qu'ils soient en difficulté. Et donc je crois que c'est une orientation pédagogique extrêmement importante. Dans la pédagogie par objectif, très clairement, c'était la chasse à l'erreur. On essayait à tout prix d'éviter l'erreur. Comment ? Mais en segmentant le plus possible. Donc toute la pédagogie par objectif, c'est l'idée de éviter que les élèves fassent des erreurs. C'est éviter que les élèves fassent des erreurs. On donne toujours l'exemple. Quand un enfant apprend à marcher, c'est les parents qui sont juste à côté qui font attention, 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 attention. Et puis on peut y aller, tomber. Et puis c'est comme ça que peut-être qu'on apprend plus à marcher.
Il nous reste quelques minutes. On peut encore avoir une ou deux questions. On peut aussi s'arrêter là et aller déjeuner. Je vous remercie encore pour cette matinée qu'on a passée avec vous et qui, je pense, va vraiment éclairer la suite de nos travaux à différents niveaux. Et merci encore.